Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir encore pour ces 2 heures de libre antenne. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin pour partager nos expériences de vie, nos joies, nos peines, nos doutes, nos questions, ensemble pour oser prendre la parole en appelant le 3921. Vous êtes nombreux à nous écouter, mais vous êtes aussi très nombreux à m'envoyer des messages pour me dire « Je voudrais tellement vous parler, mais je n'ose pas appeler, j'ai peur ». Comment nous libérer de la peur et oser nous mettre en mouvement ? Nous avons tous entendu dans notre enfance le mot « attention ». Prends garde, attention de ne pas tomber, de ne pas te couper, attention. Et pourtant, malgré cet avertissement, en tant que petite enfant, spontanée, enthousiaste, nous avons osé persévérer. Pour apprendre à marcher, courir, grimper, nous avons dépassé le « attention ». Malheureusement, en grandissant, nous fonctionnons souvent de nouveau en mode « attention », en fonction de nos peurs. Alors qu'en réalité, le plus grand risque pour nous est de ne pas oser. En restant accrochés à nos peurs, nous créons des dualités internes et des regrets futurs. Qu'est-ce qui nous empêche d'oser ? Eh bien la peur de nous-mêmes, de notre capacité à réussir, ou la peur du jugement de l'autre, peur de ne plus être aimé aussi. Et c'est comme ça qu'on reste en mode spectateur en se donnant toutes les raisons du monde pour nous limiter, nous freiner, arrêter notre envie de passer à l'action. Et nos peurs prennent l'ascendant sur nos besoins et nos envies. Alors, chassez la peur, faites-la sortir par la porte de service et laissez vos besoins et vos envies s'exprimer. La porte de ce studio vous est grand ouverte pour peu que vous composiez le 3921. Amandine et Hassan attendent vos appels. Pour participer par SMS, vous faites le 73921 en commençant par le mot nuit. Tout le monde est prêt, Fabrice Foujours est aux commandes. Alors la libre antenne, ça commence maintenant.
23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Et ça va commencer ce soir avec Marie qui voudrait bien que ses enfants se réconcilient. Elle nous raconte son histoire dans un instant. Et on commence donc cette émission avec vous, Marie. Bonsoir.
Oui, bonsoir Sabine.
Bienvenue sur cette libre antenne, Marie.
Merci.
Alors racontez-nous un peu votre histoire.
Voilà, déjà je voulais vous remercier pour votre émission que j'écoute tous les soirs. J'écoute ça en replay. Donc voilà. Et puis alors ce soir-là, j'ai fait j'ai envoyé un message parce que je suis un petit peu désemparée. Je comprends pas complètement la réaction de ma fille vis-à-vis de son frère. Parce que en fait, bon, c'est vrai que si vous voulez, c'est deux enfants de pères différents. Bon, je les ai élevés seuls. Ma fille avait je me suis retrouvée avec tous les deux. Ma fille avait 10 ans et mon petit il avait 13 mois.
Vous êtes séparée du papa de votre fille, elle avait quel âge ?
De ma fille, elle avait 7 ans.
D'accord.
Puis après, quelques mois après, j'ai rencontré le papa de mon fils. Mm-hmm. Et puis, un an après, je suis tombée enceinte et j'ai eu mon fils. Et en fait, ça n'a pas duré longtemps parce que mon fils, il avait 13 mois. Je me suis retrouvée dans un foyer avec mes deux enfants. Un foyer d'urgence, quoi. Ouais. Donc voilà, bon, ça c'est les choses de la vie. Hein. Et j'ai élevé mes enfants hein, du mieux que j'ai pu. Et puis, ma fille, ils sont complètement différents, les deux enfants. C'est-à-dire que ma fille a beaucoup de caractère. Bon, elle sait ce qu'elle veut, elle n'a jamais été compliquée, ni ça aurait été une enfant difficile. Mais de ce fait, enfin, malgré tout, je précise quand même que. Elle est partie de la maison, elle avait 15 ans et demi, pour vivre avec son compagnon. Mmh. Et puis, elle est devenue indépendante très vite. Hein.
Mais vous n'étiez pas fâchées toutes les deux ?
Non. C'est-à-dire que bon, il y a eu des froids, bien entendu, parce que j'étais pas trop d'accord de qu'elle parte si vite de la maison, etc. Enfin bon, c'était un peu compliqué, mais bon, en même temps, elle était heureuse. Et si vous voulez, c'est assez que... Bah, et puis, ils sont toujours ensemble, hein. Ils sont mariés, et puis ils ont deux enfants.
Oui, donc elle ne s'est pas trompée.
Elle ne s'est pas trompée, voilà. Ouais. Oui, elle s'est pas trompée. D'ailleurs, elle s'est mariée il y a un an et tout va bien. Ils ont deux enfants et il n'y a pas de souci. Hein. Non, ils sont commencés avec rien et puis ils ont leur vie correcte, quoi. Hein. Et puis, par contre, ben, après mon fils, moi, je me suis retrouvée toute seule avec mon fils. Alors, je suis un peu émue, là.
Tout va bien.
Et puis, mon fils, après, c'est vrai que j'étais toute seule avec lui. Bon, c'était un petit peu un enfant gâté. Hein. Plus ou moins, hein, si on peut dire. Hein, parce que... Et puis, c'était un enfant un peu aussi gâté, un peu capricieux, quoi. Mais le souci, si vous voulez, dès le départ, si vous voulez, c'est que il avait du mal à accepter mon autorité, si vous voulez. Donc,
c'est souvent le cas quand il y a un garçon seul avec maman, quoi.
C'est ça.
Où sont les frontières? Qui est l'homme de la maison?
C'est ça. C'est ce qui s'est passé.
Mais c'est pas lui le problème. C'est ça qu'il faut faire comprendre aux enfants à cet âge-là. Ouais. Ouais.
Et puis bon, il y a eu un moment où j'ai dû faire appel à un juge pour enfants parce que c'était un peu trop violent. Moi, j'étais un peu trop perturbée avec tout ça parce que il me cassait des trucs dans la maison.
Vous étiez un peu dépassée.
Voilà, j'étais dépassée. Donc, c'était pas un voyou du tout, mais à la maison, j'arrivais plus. Donc, au lieu que d'attendre et puis que ça devienne dramatique, j'ai fait ça. Bon, c'est vrai que c'est une démarche quand même difficile. Hein.
C'est-à-dire, vous êtes allé voir un juge pour demander quoi?
Oui, j'ai écrit pour demander, pour expliquer que j'avais du mal avec l'autorité, quoi. J'avais plus trop d'autorité avec lui, quoi.
Et qu'est-ce qu'on vous a proposé comme aide?
Eh bien, un éducateur qui venait toutes les semaines. Mmh. Soit il était avec mon fils, soit on parlait ensemble, dépendait, en fonction de... Et puis après, ça a duré quoi, un an et demi?
Comment ça s'est passé, ça?
Eh bien, j'ai trouvé que c'était bien parce que mon fils, ça l'a un peu posé, on va dire.
Et oui, il a trouvé un cadre.
Il a trouvé il a trouvé une...
Une présence masculine aussi.
Une présence masculine, c'est ça. Donc, ça l'a un petit peu posé. J'ai trouvé qu'il était plus sympa avec moi, enfin, plus posé. Il était plus posé. Il y avait comme vous dites, la présence masculine. Voilà.
Donc, c'était positif, ça.
C'était positif. Ouais. Donc, ça s'est passé pendant, je ne me rappelle plus précisément, hein, peut-être un an et demi, quelque chose comme ça. Et puis, on m'avait demandé après si je voulais continuer. Puis, je me suis dit non, puisque ça reprenait cours, quoi.
Il avait quel âge, votre fils, quand ça a commencé, cette aide?
Ça a commencé vers 14 ans.
Oui, c'est l'âge le plus difficile. Ouais.
Oui.
C'était bien que vous soyez épaulé. Hein.
Oui, c'était nécessaire, oui. Ouais. Et puis, après, ça a été un an, comme ça. Puis là, ça a recommencé.
Ah.
C'était, ça y est, j'ai dit, oh là là, ça va plus. Il voulait ma carte bancaire pour acheter des jeux pour Internet. Parce qu'il était très accro à tous ces jeux-là d'Internet, en ligne, tout ça. Donc, oui.
Il y a toujours un truc à acheter. Puis,
c'est ça. Et puis, à un certain moment, il n'allait plus en cours, quoi. Il a décroché et tout ça, donc je dis, c'est pas possible. Et puis, un jour, ça a été la cata, quoi. Il a cassé tout dans la maison. Donc, c'était un peu la petite guerre pendant quelques jours. Et puis, j'ai dit là, il faut faire quelque chose. Donc, j'ai réécrit. Mmh. Et puis, le temps que ça se mette en place, j'ai eu de nouveau un éducateur. Et il avait 17 ans et demi, quoi. Donc, en fin de compte, il a eu quand même un éducateur pendant 6 mois. Et après, à 18 ans, il avait le choix de poursuivre avec l'éducateur ou non. Et là, évidemment, il a refusé.
Ah.
Et donc, il s'était installé chez lui. Et il m'a dit, non, je suis assez grand, voilà, maintenant.
Donc, depuis combien de temps il est chez lui?
Il a été chez lui il y a 18 ans, et puis il a refait, il est revenu, je ne me rappelle plus trop exactement les dates, mais il est revenu peut-être un an ou deux après, il est revenu à la maison.
Pour quelle raison, après, pour quelle raison il est revenu?
Parce qu'il ne travaillait pas, qu'il ne pouvait pas
alors.
Payer.
D'accord.
Voilà.
Et comment il se comportait avec vous à ce moment-là?
Ben là, je lui ai demandé pour aller travailler et tout. Bon, il a travaillé quoi, un mois ou deux. Puis après, ben, il est resté un an sans travailler, quoi.
Oui, mais avec vous, il était comment à ce moment-là?
Ben, il était un peu absent, quoi. Il était plus avec les copains.
Mais pas violent, pas de violence, pas de menace?
Non.
Non.
Il était, non, puisque je le laissais faire un peu ce qu'il voulait. Enfin, entre guillemets, pas ce qu'il voulait. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que je voulais qu'il aille travailler, mais il n'allait pas travailler. Donc, je lui ai laissé une année, on va dire. Hein, parce que bon, il avait des copains qui venaient à la maison, où il allait voir les copains, où il ne faisait rien. Bon, il a été un an à rien faire. Mais bon, si vous voulez, à partir du moment où il n'y avait pas de violence, bon, ce que j'ai déploré, c'est qu'il ne faisait rien. Et puis, au bout de cette année-là, ça n'a pas été, parce que c'est moi qui ai un peu mis les limites, parce que on avait fait son anniversaire et tout, les copains étaient venus, j'ai fait ça pendant 3 jours à la maison, très bien. Et puis, un jour, il est revenu, puis le soir, moi, je reviens du travail, et puis, évidemment, je n'avais pas pris de pain frais, donc je lui dis, c'est pas grave, c'est du pain comme ça, on va manger avec ce pain-là, voilà. Et puis, il m'a envoyé le pain à la figure, et puis, il m'a fait une crise de nerfs.
Et il a recommencé, ouais.
Et là, il a recommencé. Et là, j'ai eu peur, comme avant. Parce que, si vous voulez, avant, c'est vrai, je ne suis pas quelqu'un de courageuse, mais pas téméraire, comme on dit. Et là, j'ai rien dit, mais j'ai eu peur encore. Je me suis retrouvée dans la situation qu'il y avait 2 ans, quoi. Mmh. Ou 3 ans. Et là, je me suis ressouvenue de ça, et j'étais un peu paralysée, quoi. J'ai pu bouger. Et puis là, j'ai dit non, c'est pas possible. Ça ne peut pas recommencer, c'est pas possible. Et le lendemain, je lui ai dit qu'il parte de la maison.
Oui.
Je lui ai dit que je ne voulais plus de lui à la maison, et qu'il m'a dit que je lui ai dit que s'il voulait pas travailler, c'était son choix, mais que je n'allais pas accepter ça.
Vous avez dit stop
à la maison.
Pour une fois.
J'ai dit stop.
Oui.
J'ai dit là non. Alors il m'a dit, tu n'as pas le droit de me mettre dehors, etc. J'ai dit si, j'ai le droit. Je dis maintenant tu es majeur. Je dis maintenant ce que tu m'as fait, je ne tolère pas. Donc tu t'en vas. Je dis t'as jusqu'à demain matin. Et si demain matin tu n'es pas parti, je procède autrement. Donc il est parti.
Oui. Comment vous vous êtes senti à ce moment-là, vous?
Pas bien du tout.
Déchiré,
malade,
j'imagine. Ouais.
Ah, bah, j'étais malade. Hein, ouais. Ça m'a. Ah oui, j'étais partie le matin, j'étais...
Mais en même temps, vous aviez raison, ça n'est pas admissible.
Ah non.
Lever la main sur sa mère, ça c'est même pas imaginable.
Ah non, j'étais malade. Ouais. Mais de faire la démarche, c'est vrai que c'est complètement différent. Quand on encaisse le coup ou la violence ou les mots, et qu'après, ben, moi je me suis dit, faut que je sois forte, faut que je fasse quelque chose. Mm. C'est vrai que je l'ai été. J'ai dit ce que j'avais à dire et j'ai mis les limites. Mais c'est vrai qu'après, j'étais malade.
C'est dur, bien sûr.
C'est très dur, très très dur. Ça, c'est très très dur. Donc après, il est parti. Je l'ai laissé se débrouiller. Et puis, 2 mois après... Il m'a dit, écoute, il m'a envoyé un message en me disant, écoute, maman, est-ce qu'on peut se voir? Puis je lui ai dit, écoute, oui. Il me dit, écoute, voilà, on va aller manger quelque part. Ils m'ont offert à manger. Et puis, de lui-même, il me dit, alors j'ai dit, as-tu besoin de quelque chose? De l'argent? Donc là, il m'a dit qu'il allait trouver un nouveau logement, qu'il allait trouver un travail, qu'il s'en sortait.
Donc il a appris à voler de ses propres ailes.
C'est ça?
Mais quelquefois le pousser du nid, ça peut être utile.
C'est ça, ouais, ouais. Et puis, je lui ai dit, mais as-tu besoin de quelque chose et tout, de l'argent ou des vêtements ou quelque chose? Il m'a dit non, non. Et puis, il me dit, écoute, maman, j'ai toujours retenu cette phrase-là. Il me dit, écoute, maman, il me dit, arrête de te culpabiliser. Il m'a dit, c'est pas ta faute. Il me dit, et je regarde, puis je comprends pas, enfin, j'étais étonnée, puis il me dit non. Il me dit, c'est pas ta faute, c'est moi. Oui. Et là, j'ai...
C'est un beau cadeau qu'il vous fait en vous disant ça.
Ah oui. Et là, c'est des paroles qu'il m'a dit, j'ai... Waouh, j'étais... J'étais... Il a été honnête, et puis à partir de là, bon, bah, il a... Voilà, après, il s'est débrouillé, 18, 19 ans à peu près. Puis après, il a travaillé, tout ça, puis je ne me rappelle plus trop exactement combien que ça fait. 18, 19, 20 ans, enfin bref. Puis après, il a retrouvé du travail aussi, avec un logement. Puis après, il a rencontré quelqu'un qui n'en a pas été.
Il vivait sa vie, quoi, en tout cas.
Il vivait sa vie.
Bon.
Oui. Oui. Oui, il vivait sa vie. Puis, il a vécu sa vie, mais un petit peu en dents de scie, quoi. Il a un peu bu, un peu fumé, un peu fait un peu des bêtises comme ça. Alors, avec ça, ça ne le stabilisait pas dans son travail. Mmh. Alors avec ça, les relations ou le travail, ben des fois il travaillait, il était très bonne volonté, il allait tout faire, tout transformer sa vie bien, et puis tout d'un coup, top, patatras, il n'y avait plus rien, plus personne. Là, il n'était plus du tout dans le projet d'avenir, il était complètement voilà. Désintéressé. Il se culpabilisait. Il se disait que c'était un nul, que si cela. Il faisait un peu de déprime, tout ça. J'ai essayé d'être là, hein, dans tous les cas. D'être là pour lui dire que non, c'était quelqu'un de bien, qu'il fallait qu'il n'y avait pas de raison, etc. Et puis moi, j'ai su, à ce moment-là, à peu près à ce moment-là, quand il y a eu des problèmes de travail, de ceci, cela, où il a fait un peu des déprimes, et là, il m'a dit que ça faisait déjà depuis quelques années qu'il buvait, quoi.
Mais vous avez dit tout à l'heure à Hassan en appelant que le problème c'était avec sa sœur. Et là, vous ne mentionnez pas du tout sa sœur. Quel est le problème en fait?
Ah oui, c'est ça, oui, pardon, excusez-moi. Oui, alors avec sa sœur, ben, si vous voulez, le fait que, bon, déjà, quand il m'a fait des bêtises et tout ça, donc sa sœur n'était pas d'accord, évidemment. Et puis le souci, c'est que bon, ma fille et puis mon gendre, ils me disent que je le soutiens de trop, quoi, que je l'aide de trop, et qu'ils m'ont toujours dit ça. Alors j'ai dit oui, mais enfin moi c'est mon fils, je peux pas ne pas l'aider. J'essaie de l'aider du mieux que je peux, même si un jour il m'est arrivé de le mettre dehors. Je veux dire, à un moment donné où je peux pas le jeter complètement, c'est mon fils à part entière. Enfin, je veux dire, voilà. Et ils ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas que, si vous voulez, ils ne comprennent pas, aussi beaucoup ma fille, elle ne comprend pas que moi, je peux... On est des mamans et on pardonne des mauvaises choses ou des mauvais choix qu'ils font ou des mauvaises paroles. Oui, on pardonne nos enfants.
Le lien n'est pas le même entre une sœur et une mère.
Mais voilà. Donc ça, moi, je peux le comprendre. C'est ce que j'ai dit à ma fille. J'ai dit, et tu sais, quand on est parents, tu verras quand tes enfants seront grands, on pardonne aux enfants. C'est un troll, hein, c'est pas... Voilà. Et elle a du mal à accepter ça. Et bon, et maintenant, mon fils, il aimerait bien se réconcilier avec sa sœur, parce que bon, déjà, il y a un an et demi, il a pas pu venir au mariage de sa sœur, parce que déjà, à ce moment-là, il était pas bien, si vous voulez. Il a eu des moments, il avait des moments d'angoisse, de déprime, de...
Mais c'est elle qui n'a pas voulu qu'il vienne ou c'est lui qui n'a pas voulu venir?
Ben, c'est lui, dans un premier temps, il a été invité.
D'accord.
Et Et lui, si vous voulez, avait téléphoné à sa sœur en lui disant, peut-être quelques mois avant, 3 mois avant peut-être, et lui a dit, bah, écoute, je ne vais pas pouvoir venir, je ne me sens pas bien, et ce n'est pas possible, je ne me sens pas bien. Et c'est vrai qu'il n'était pas... il n'avait pas toute sa tête, si je peux dire, quoi. Il n'était pas bien. Et voilà, c'était resté comme ça. Et puis après, il s'était ressaisi. Et puis un mois après, il avait rappelé sa sœur. Moi, j'étais là. Et il lui a dit, bah, écoute, en fait, je crois que je vais pouvoir venir si tu es toujours d'accord. Et là, sa sœur l'a un peu braqué en lui disant, bah, écoute... Je vais en parler, donc elle allait en parler à son futur mari, et elle lui a fait comprendre que de toute façon, que c'était pas la peine qu'il vienne, quoi.
Et depuis,
ils se sont pas reparlés au téléphone depuis. Et là, j'en ai parlé là tantôt justement, j'ai mon neveu qui va faire ses 50 ans, et donc le cousin ma fille, et lui, ma fille lui dit, ben c'est qui t'as comme invité et tout, donc il dit la liste. Et donc, mon fils, donc son frère. Et là, ma fille, elle n'était pas contente du tout. Donc, et elle me dit, mais maman, pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Oui. Et ben, je lui ai dit, écoute, parce qu'il y a 2 jours, j'ai été voir mon fils, et puis on a parlé de mon fils, puis je lui ai dit, je lui avais dit à ma fille, je lui ai dit, bah, tu sais, il aimerait bien te revoir, mais je pense qu'il ira te voir plutôt que te téléphoner, il préfère aller te voir plutôt que t'appeler, il m'a dit que c'était mieux et tout. Donc je lui ai dit, bah, écoute, c'est vous qui voyez, enfin bon, voilà. Voilà. Et donc on a parlé comme ça, et puis ma fille me dit, mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Bah, je lui ai dit, écoute, je savais que... Donc, mon neveu venait manger ce midi avec nous, donc il allait t'en parler. Et là, ça a été une catastrophe. Elle m'a dit, non, tu dois tout me dire, pourquoi tu ne me dis pas tout? Ben, je dis, écoute, c'était le rôle, de toute façon, je te l'aurais dit, mais sachant que mon neveu venait, bon, il te le disait, point barre. Je dis, je ne vois pas ce que ça change.
Et ouais, elle se braque, là, ouais.
Elle s'est braquée. Ouais. Et je lui dis, ça change. Elle me dit, si, tu dois tout me dire. Tu dois tout me dire, de toute façon, puis après c'est parti, terrible quoi. Oui, de toute façon, t'es contente. Et au lieu de me dire, bah, écoute, bah, je sais pas, elle n'avait pas raisonné. Alors, le souci maintenant, c'est que, bon, quand on parle de mon fils, comme on en a parlé il y a 2-3 mois, encore avec la famille, elle se braque, et puis c'est une catastrophe. Elle est en... Comment dirais-je? Elle est... C'est violent, quoi. Les bah, propos,
elle
la réaction,
vif,
c'est violent.
C'est ça que j'entends, elle est à vif.
C'est ça.
Alors qu'elle c'est a, ça, elle a quoi? Elle a 35 ans, 34 ans, votre
5.
35.
34, oui.
Et oui, donc c'est une adulte aujourd'hui, elle réagit encore comme une enfant.
C'est ça.
Mais vous savez, ce qui est intéressant de comprendre dans des situations comme les vôtres, quand on a des frères et sœurs et qu'il y en a un qui a un problème, que ce soit un problème de santé, que ce soit un problème de comportement, l'air de rien, il accapare beaucoup maman et papa, quelquefois aussi.
C'est ça.
Et pour l'autre enfant, c'est pas juste. Même si intellectuellement, ils comprennent, ça arrive même dans des familles où il y a un enfant qui est très malade. Les autres n'ont au moins de place, parce que maman, elle est très occupée et très inquiète. Et ça crée déjà un passif, si vous voulez. Peut-être que votre fille, quand elle était petite, elle a trouvé que... Ben, il est gentil, ce frère, mais à force de faire des bêtises tout le temps, maman est très inquiète, maman s'occupe beaucoup de lui, maman prend du temps avec lui.
C'est ça.
Et moi, je deviens quoi dans cette histoire? Et ça peut être quelque chose qui est ancré en elle et qui crée... Parce que j'ai vraiment l'impression, en vous écoutant, qu'elle a des réactions d'enfant. À 35 ans ou 34 ans, c'est encore à vif. Donc il y a une sorte de souffrance, de blessure qui n'a pas été refermée, qui est cette blessure d'injustice. Ce frère-là, il a pris trop de place dans le cœur de maman. Alors même si ce n'est pas vrai, bien évidemment, en tant que maman, je suis persuadée que vous aimez les deux pareil. Sauf qu'un enfant ne le perçoit pas de cette manière-là, souvent.
Oui, c'est ça.
Et quand une maman, et c'est complètement normal, et encore plus légitime quand un enfant est malade ou a des problèmes, forcément on s'en occupe davantage, parce qu'on s'inquiète. Et parce que cet enfant-là a besoin de nous, sauf que l'autre, il a aussi besoin de nous.
C'est ça.
Mais on s'en rend moins compte parce que tout roule, tout va bien, tout est facile avec l'autre. Et souvent, ces enfants-là me disent après coup, oui mais moi j'avais pas intérêt à ce qu'il y ait un problème. Parce que l'attention était sur mon frère ou ma sœur, et il y avait déjà suffisamment de problèmes avec lui ou avec elle, moi je pouvais pas me permettre qu'il y ait quoi que ce soit qui n'aille pas. Et ça crée un sentiment d'injustice, et j'ai l'impression que votre fille, elle rejoue ça en fait en boucle.
C'est ça. Alors, Oui, moi, je le ressens comme ça. Alors, souvent, je lui ai dit, voilà, machin. Et c'est vrai que, en plus, on est très, 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 très proches. Hein. On s'appelle 10 fois par jour. On est, voilà, on est très, très proches. Moi, je suis beaucoup, beaucoup avec eux. D'ailleurs, Et moi, je le ressens comme ça. Et j'essaie de lui prouver à ma façon, ou de lui dire à ma façon que non. Que je l'aime autant et que malgré qu'il soit, c'est vrai que j'ai moins de difficultés, c'est ce que vous dites, mais moi et ce qui me fait de la peine et ça me fait du mal quand tu la vois réagir comme ça, parce que je ne voudrais pas que ça, si vous voulez, au lieu de calmer les choses et d'apaiser les choses, et que j'aimerais avec l'âge, c'est ce que je dis toujours, je me dis ça va s'arranger, ça va. C'est ce que je lui ai expliqué encore il y a 2 jours. Je dis ça va se calmer, il faut passer. Et puis la vie c'est ça, il faut apprendre à passer sur certaines choses et pas vivre avec les
blessures du passé.
Les blessures, c'est ça. Faut essayer et non, elle reste.
Et oui, parce que malheureusement, le temps qui passe calme les choses intellectuellement, mais pas émotionnellement. Une émotion coincée, le temps peut passer, 50 ans peuvent passer, 100 ans peuvent passer, si on est encore en vie. Ça ne change pas. Ce qui serait intéressant de faire, c'est de parler à votre fille, mais de parler à la petite fille qui est à l'intérieur d'elle encore. De la prendre un jour et lui dire, écoute, peut-être que tu t'es sentie exclue, peut-être que tu as eu l'impression que j'avais moins de temps pour toi, mais ça n'est pas vrai. Tu as ta place, je t'aime exactement de la même manière, tu as été une petite fille formidable. Valoriser la petite fille qu'elle a été.
Oui.
Parlez-lui simplement avec ces mots-là. Dis-lui que peut-être la petite fille qu'elle a été a cru que son frère avait plus d'importance, plus de place, que ci, que ça. Que c'était pas juste. Non, c'était pas juste, mais la vie n'est pas juste. C'est comme ça. Chaque enfant est différent, mais l'amour est le même. Je pense qu'elle a besoin d'être rassurée, votre fille. Ça paraît évident, mais il y a des mots qui sont importants de dire. Il y a des mots qu'elle a besoin d'entendre, je pense.
Quand elle est comme ça, elle... Quand elle est comme ça, elle peut pas entendre rien.
Ah non, il faut pas. Non, je pense en période de crise, c'est pas la peine. Quand elle se braque,
ah oui.
Je pense qu'il faut la prendre seule à un autre moment, un moment de calme, un moment toutes les deux, quitte à la prendre dans vos bras, comme quand elle était petite. Vraiment dans votre intention de s'adresser à elle, mais s'adresser à la petite fille qui est en elle. C'est cette petite fille là qui souffre. C'est pas la grande. La grande, elle sait bien sûr. C'est la petite fille à l'intérieur qui est pas bien avec cette histoire. Et si elle se calme avec ça, si elle arrive à s'apaiser. Elle s'ouvrira, logiquement, elle s'ouvrira à son frère. Elle réagira de manière plus mature. Il faudra lui expliquer aussi qu'un frère, quel qu'il soit, on n'en a qu'un dans la vie. Et que le jour où on perd ses parents, plus tard et le plus tard possible, je vous le souhaite, ben, il n'y a que les frères et les sœurs qui sont là. Les amis,
voyez,
c'est bien, mais c'est autre chose, vous voyez.
Vous voyez, c'est ce que j'ai eu comme... C'est marrant ce que vous dites, parce que j'ai eu ce sentiment-là cet après-midi, là, je me dis, mais... C'était tellement violent et son mari, ils sont pareils, quoi, je dirais. Enfin, violent dans les propos, quoi, je veux dire. Et je me disais, mais si moi, un jour, je viens partir, mettons que ce soit dans 8 jours, dans 15 jours, c'est un exemple, hein, et que, mais comment ça va se passer ensemble? Ils vont se battre, comment ça va faire?
Non,
c'est ça que je redoute. Je me dis, mais c'est pas possible d'en arriver là. Après, surtout que bon, mon fils qui me disait, quand je suis allée le voir, il s'est mis à culpa. Il m'a dit, je sais où j'en suis, je sais où sont mes torts. Il me dit, mais j'aimerais en parler. Et comme on dit, percer l'abcès avec ma sœur pour justement revenir apaiser. Mais je me dis, et quand j'entends ça aujourd'hui, je me dis, mais comment que c'est possible? Moi, ça me fait peur. Je me dis, c'est pas possible. Je peux pas, moi, supporter ça.
Est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, rassurer votre fille et, dans un deuxième temps, peut-être essayer de servir d'intermédiaire, d'entremetteuse?
Oui, mais
De les faire venir tous les deux, les inviter tous les deux. Pas tout de suite, je crois qu'il faut d'abord rassurer votre fille.
Oui.
Vraiment. Vous savez, quelquefois, les situations les plus explosives, il suffit de quelques mots pour les calmer.
Ah oui.
Juste laisser parler votre cœur. Apaiser ce côté-là de votre fille, cette partie d'elle qui est en souffrance, parce que quand on réagit comme ça, c'est qu'on est en souffrance.
Ah oui.
Quand on est bien, on réagit pas comme ça. C'est pas la peine.
Moi, je le sens comme ça, mais
quand le volcan se réveille, c'est qu'il y a un truc qui va pas.
Ah oui.
Et donc aller voir avec elle ce qui va pas, l'apaiser et dans un second temps essayer de lui faire comprendre qu'un frère on en a qu'un et que vous aimeriez bien qu'ils se réconcilient. Essayer de les rapprocher tous les deux. Mais ça marchera pas tant qu'elle est pas apaisée. Il y a trop de colère en elle. Il y a trop de sentiments d'injustice, j'ai l'impression.
Ah oui, il y a beaucoup de colère. Hein.
Ouais.
De toute façon, on ne peut pas parler de son frère sans qu'elle se mette en colère. Ce n'est pas possible. Hein.
Et vous voyez, Marie, vous n'êtes pas la seule. On a reçu un SMS qui n'est pas signé, qui dit « Je vis la même chose. J'ai une fille malade de 38 ans, je l'ai entourée beaucoup et j'ai des difficultés avec son frère et sa sœur qui ne comprennent pas. » Oui, c'est un classique. Je crois que votre histoire doit parler à beaucoup de mamans ce soir.
Oui, mais c'est dur hein, quand on est maman et qu'on aimerait tellement qu'ils s'entendent et que voilà, et dans la vie il y a des choses quand même beaucoup plus graves que tout ça, et c'est vrai que ça fait beaucoup de peine, et en même temps moi j'ai de la peine de voir ma fille malheureuse comme ça aussi, et tout le monde, voilà, oui, ça fait de la peine.
C'est pour ça que je vous dis que c'est peut-être de ce côté-là qu'il faut tirer sur le fil de la pelote de laine par elle, en commençant par l'apaiser elle le plus possible. Est-ce que l'un de vous trois s'est fait suivre par un thérapeute ? Votre fille, votre fils ou vous ?
Pardon, excusez-moi. Moi, oui.
Mm-hmm.
Moi, j'ai été voir quelqu'un pendant 10 ans.
Pour travailler sur quoi, précisément ?
Oh là là, c'est... Pour travailler... Déjà, dans un premier temps, c'était pour par rapport à les problèmes de couple, parce que si vous voulez, quand je me suis retrouvée au foyer avec mes deux enfants, mon petit il avait 13 mois, ma fille qui me dit non, j'ai pas compris, là ça m'a
ouais, d'accord.
Après je suis revenue en boucle sur ce problème là avec mon médecin traitant m'a conseillé d'aller voir un psychiatre. Et j'ai consulté pendant 10 ans. Et ça a dénoué un peu tout ça. Et c'est revenu à mon enfance, qui était un peu compliqué. Pas trop long pour en parler, mais et c'était pour mon histoire. Et voilà. Et le fait que je suis peut-être encore aujourd'hui toute seule vient de mon histoire d'enfance aussi.
Vous voyez, c'est une autre pelote de laine, celle-là.
C'est cela. Que voilà.
Mais en tout cas, Marie, je pense que vraiment là, il y a quelque chose à faire du côté de votre fille.
Oui.
L'apaisement peut venir de là. La première vague d'apaisement peut venir de là. Allez lui parler à cœur ouvert, un moment de calme. Invitez-la à manger un gâteau, à prendre un goûter ensemble, un moment vraiment d'apaisement.
Mmh.
Et parlez à la petite fille qu'elle a été. Avec des mots simples, simplement des mots simples. Dites-lui que vous comprenez. Que oui, c'est injuste, que ça a été injuste, mais que ça ne change rien à l'amour. Et qu'elle a autant de place dans votre cœur que lui. Et si la vague d'apaisement commence par là, ça peut atteindre votre fils après. Ça pourrait calmer tout le monde, cette histoire. Petit à petit. Je ne vous dis pas que c'est facile. Hein. Je vous dis qu'il faut bien commencer par tirer sur un fil.
Ouais.
Pour défaire les nœuds.
Oui. Ouais, d'accord, je vais essayer de faire comme ça, oui.
D'accord, Marie.
Ouais, je vais essayer de faire comme ça, et puis j'ai déjà fait, mais je vais continuer.
Je vous souhaite de tout cœur que tout ça s'apaise.
Ben, je vous remercie, Sabine, de m'avoir écouté, de m'avoir aidé un peu.
Merci de votre confiance, Marie. Je vous embrasse.
Merci. Au revoir.
Au revoir. Et c'est Rachid maintenant que j'accueille sur cette libre antenne. Bonsoir Rachid.
Et bonsoir, comment ça va ?
Ça va et vous ?
Oh ben, moi, comme c'est comme ça. Hein.
Pourquoi est-ce que vous m'appelez ce soir ?
Eh ben, je vous appelle parce que j'ai perdu mon père au mois d'octobre.
Ouais.
Juste après mon anniversaire, quoi. Et j'ai pas pu assister à son enterrement, quoi, parce que ma famille m'a même pas prévenu, c'est même pas ma famille qui m'a prévenu, quoi.
Comment ça se fait?
Eh bien, comment ça se fait? Parce que moi, j'habite dans le Vaucluse, je suis à 800 km. Eux, ils habitent dans l'Aube, dans le Nord. Et j'ai des frangins, j'ai de la famille du côté de Toulouse. Hein, et ils ont même pas été capables de me prévenir, comme quoi mon père, il a décédé.
Et votre mère?
Ni, même ma mère.
Vous étiez fâché avec eux?
Avec mon père, oui. Moi, j'étais fâché avec mon père. C'est vrai. Bon. Avec ma mère, non. Ma mère, à chaque fois, quand j'habitais chez eux, il y avait des hauts et des bas, tout ça. Bon. Bon. C'est vrai, j'admets. Mais, la moindre chose, on prévient.
C'est que votre propre mère vous a pas prévenu de la mort de votre père.
Même ma propre mère n'a pas prévenu.
Donc vous l'avez appris par un ami de la famille, comment vous avez réagi? Qu'est-ce que vous avez fait alors?
Ah bah ça m'a fait bizarre, hein, ça m'a fait drôle, hein, je dis c'est pas possible. Parce que moi je suis né le 10 octobre 1970. Donc quand j'ai appelé mon père la dernière fois, il était à l'hôpital à Romilly-sur-Seine dans l'Aube, là-bas, là, et il m'a dit bon anniversaire et tout là. Et ma mère, je lui dis qu'est-ce qu'il fait à l'hôpital? Elle me dit, elle est malade et ce qu'il mange, il vomit, quoi. Alors, je dis, bon. Et le dernier mot qu'il m'a dit, il m'a dit, bon anniversaire. Et voilà.
Donc vous n'étiez pas si fâché que ça.
Hein?
Vous n'étiez pas si fâché que ça.
Bah, si, parce que je ne l'ai pas vu. Moi, je suis parti de chez mes parents en 2000. 2000, parce que j'ai perdu un frère en 2002. Bon, moi je suis parti en 2005 de chez ma famille.
Ouais.
Voilà. Et depuis, j'ai pas vu mon père, quoi.
D'accord.
Juste par téléphone, quoi.
Donc il est mort juste après que vous l'ayez eu au téléphone, peu de temps
Ouais.
après.
Ouais.
Quel âge il avait, ce papa?
84.
Mmh.
87. Et la mère, elle a 56. 56 ans.
Ah, il y a une grande différence d'âge entre les deux.
Ouais.
Et donc, qu'est-ce que vous avez fait quand votre ami vous a appris la mort de votre père? Vous avez appelé votre mère?
Bah, j'ai appelé direct, hein. Bah, bien sûr.
Ouais.
J'ai appelé directement, quoi. Elle m'a dit, ouais, pourquoi t'es pas monté? Elle dit, moi, j'ai pas de sous. Et moi, je suis à 800 km. Mon frangin, il m'appelle la veille. Il me dit, il faut que tu montes, ton père, il va pas bien. Bah, je dis, bah, je vais monter, mais vous payez le voyage, je monte. Hein. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, prends le train sans payer. Vous appelez ça la famille, vous? Hein?
Et donc,
Hein?
comment ça s'est passé pour les obsèques?
Bah, les obsèques, bah, ils l'ont emmené au Maroc.
Oui.
Il l'a emmené au Maroc et l'a enterré là-bas, quoi.
Donc, vous n'avez participé à rien du tout.
Non, j'ai participé à celui de mon frère, mais pas à celui de mon père, quoi.
Et comment vous êtes senti pendant cette période-là?
Ah bah, je me suis senti très mal, hein. Bah, c'est pour ça que j'arrive plus à dormir, j'arrive plus à manger. Bon. J'arrive quand même à parler avec ma mère, quoi. J'arrive quand même à parler. Ah, bon. Mais
Vous
voilà,
l'avez
sans
vu,
plus.
votre maman, ou c'est que par téléphone?
Non, c'est que par
Que
téléphone.
par téléphone. Vous avez quel âge,
Je sais pas.
Rachid, aujourd'hui?
Moi, 48.
48. Et votre vie, elle ressemble à quoi? Vous avez un travail?
Non, moi, je suis handicapé. Moi, je suis à côté.
Quel handicap vous avez?
Bah moi, je suis né avec les pieds-bouts.
D'accord. Donc vous vivez seul?
Oui, je vis seul, oui.
Vous êtes entouré quand même, vous avez des copains?
Bah, j'ai des voisins, oui, je m'entends bien avec les voisins, oui. Et bon, c'est pas. Ça fait depuis 2002 que je suis pas allé au Maroc, quoi. Donc,
Et vous me parliez de vos frères et sœurs tout à l'heure. Vous êtes en contact avec eux?
Je suis en contact avec 1/8. Hein.
Ah, vous êtes 8 enfants?
Oui, on est 8. Ouais.
Et pourquoi les autres, non?
Non, parce que bon, eux, ils cherchent que maintenant que mon père est décédé, maintenant c'est une autre histoire, c'est pour l'héritage. Quoi.
Ah, les guerres de succession.
Ouais, voilà. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. Quoi. Donc, ouais. Bon, moi, je suis pas pour l'argent, je suis pas pour.
C'est pas ça qui vous motive?
Non.
Qu'est-ce qui vous fait le plus mal aujourd'hui? Qu'est-ce qui est le plus dur?
Moi, ce qui me fait plus peur, c'est que j'ai pas vu mon père. On n'a qu'un seul père.
C'est qu'il soit parti alors que vous étiez fâché?
Ouais. Mmh. Et mon père, il m'avait dit, je me rappelle, hein, quand je suis sorti de chez mes parents, il m'a dit, tu reviendras chez moi quand tu auras un travail et tu auras un avenir, quoi.
Ouais.
Il m'a sorti, il a sorti comme ça. Hein. Et malheureusement, c'est... Voilà.
Après, est-ce que vous êtes croyant, Rachid? Est-ce que vous croyez qu'il y a quelque chose après la mort?
Je crois pas parce que je fais des cauchemars la nuit.
Parce que vous savez que souvent, ça arrive malheureusement fréquemment qu'on soit fâché avec quelqu'un de proche. Et quand cette personne meurt, on se dit, oh là là, mon Dieu, elle est partie, j'étais fâchée. Et là, il y a deux options. Si vous croyez qu'il n'y a rien après la mort, ben donc ça n'a plus d'importance. Si vous croyez qu'il y a quelque chose après la mort, ça n'a plus d'importance non plus. Parce que dans une autre dimension, les fâcheries terrestres n'ont pas grande importance.
Ouais.
Donc le plus important,
c'est... Des fois, je me dis, ouais, je dis peut-être après la mort, il y a une autre vie, ou je ne sais pas quoi. Chez nous, c'est compliqué, quoi.
Ah, c'est compliqué pour tout le monde, ce sujet-là. Si on avait des certitudes, ce serait plus simple.
C'est sûr.
Mais ce que je veux dire, que le plus important à garder dans votre cœur, c'est pas la fâcherie, c'est pas les problèmes. C'est ce lien d'amour, comme vous dites, on n'a qu'un père.
Ouais, voilà.
C'est d'effacer dans votre cœur tout ce qu'il y a pu y avoir comme conflit, comme engueulade, comme distance.
Oh, bah, Dieu sait combien je me suis engueulé avec mon père. Hein.
Oh, mais il y avait de l'amour, il y avait de l'amour aussi, c'était votre papa.
Hein? Ah, c'était peut-être mon père, mais des fois... Ma mère, elle me défendait toujours. Hein. Ah, si ma mère, elle n'était pas là...
Dites-moi, Rachid, pourquoi est-ce que vous m'appelez ce soir? Comment je peux vous aider?
Moi, ce serait pour voir... Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que moi, à ce moment-là, je suis en train de baisser les bras, quoi.
Dans quel domaine, ce qu'il faut faire ou pas faire?
Moi, j'arrive plus à suivre, quoi.
Et à suivre quoi?
J'ai plus goût de la vie, moi. J'ai plus goût de rien. Moi.
Depuis la mort de votre papa?
Ouais.
Est-ce que vous avez une aide? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient vous voir? Est-ce que vous voyez un psy? Est-ce que
non.
Vous avez demandé de l'aide? Pourquoi pas?
Non. Ouais, parce que ça va servir à quoi? Ça va servir à... C'est pas ça qui va...
Ah bah si. Bien sûr que si, ça sert. Quand on est en deuil, c'est très utile de se faire aider par un thérapeute. Pouvoir parler, ça soulage déjà beaucoup. La preuve, vous m'appelez ce soir?
Ah bah oui. Mais bon, c'est vrai que c'est dur. Hein.
Bien sûr que c'est dur. C'est pour ça que je dis qu'un thérapeute, c'est important. Poser sa tête sur l'épaule de quelqu'un, être écouté, parler, c'est important. En plus, c'est tout frais, là. Vous êtes dans les 3 mois après le deuil, c'est vraiment l'une des périodes les plus douloureuses. C'est les premiers mois, on le sait. Hein.
Ouais.
Si en plus, vous avez une...
Bon,
oui, dis.
Moi, c'est que j'ai pas pu assister à son enterrement, quoi, c'est ça.
Oui, ça reste compliqué, ça.
C'est ça, quoi.
Bien sûr.
Bon, celui de mon frère, oui, j'ai pu assister, mais... Celui de mon père, c'est...
Rachid, je vais pas vous laisser comme ça, mais on doit faire une petite pause le temps des infos.
Ok.
Si vous voulez bien, je vous récupère dans quelques minutes, d'accord?
D'accord, bah c'est gentil.
Merci à vous, à tout de suite.
Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Heure à passer ensemble et vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler en composant le 3921. Si vous avez envie de parler de vous, de votre vie, de vos soucis, de vos expériences, de vos doutes, Amandine et Hassan sont là pour vous accueillir au standard en toute bienveillance et vous accompagner jusqu'à moi. Un numéro de téléphone 3921. Si vous avez envie de participer à l'émission, de réagir par SMS, vous faites le 7-39-21, commençant bien par le mot nuit. Vos SMS, je vous le rappelle, sont toujours importants si vous souhaitez soutenir ou encourager quelqu'un que vous entendez à l'antenne et qui vous touche. Si vous avez une idée, une suggestion qui pourrait l'aider, ou si tout simplement vous souhaitez entrer en contact avec quelqu'un que vous entendez. 3921, le numéro de téléphone, 739921, en commençant par le mot nuit pour les SMS.
23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Et à propos de SMS, vous êtes toujours là, Rachid ?
Oui, oui.
Pendant la pause, j'ai reçu un SMS de quelqu'un qui vous trouve très sympathique. Je voulais vous le transmettre. Vous voyez ?
Ouais, c'est gentil.
Ce que vous me disiez tout à l'heure, et c'est très important, c'est que ce qui est très difficile en dehors du chagrin d'avoir perdu votre père, c'est de ne pas avoir été aux obsèques.
Ouais.
Et c'est important ce que vous dites là, parce que toutes ces cérémonies autour de la mort, ça ne fait pas revenir la personne qui est partie, mais ça aide les vivants à commencer le deuil. Et quand on n'a pas vécu ces cérémonies-là, on a du mal à commencer son deuil.
Oui. C'est sûr.
C'est ça qui est difficile.
Ouais.
Et donc, ce que je pourrais vous suggérer dans un cas comme ça, c'est de faire quelque chose symboliquement. De faire quelque chose qui pourrait pour vous représenter un moment où vous vous posez. Ça peut être simplement, je ne sais pas, allumer une bougie en pensant à votre père. Aller quelque part.
Est-ce
aller vous promener.
Ça, je l'ai déjà fait, quoi.
Ou alors quelque chose d'un geste un peu plus fort, aller vous promener en forêt ou quelque part et aller planter un arbre pour lui. Quelque chose qui symboliquement représente le début de l'acceptation qu'il soit parti et le début du travail de deuil. C'est important. Parce qu'une fois de plus, quand on ne vit pas cette cérémonie-là, on n'arrive pas à commencer son deuil sereinement.
C'est vrai.
Ça peut, je ne sais pas, vous vivez en ville ou à la campagne ?
Bon, moi, c'est ville et campagne, quoi.
Donc, on pourrait imaginer que vous achetiez un petit arbuste, un petit arbre pour lui, que vous le plantiez quelque part, par exemple.
Ouais.
Marquer symboliquement cet événement triste pour dire aussi je suis là. Je suis pas en dehors du truc. Parce que vous avez l'impression d'avoir été mis un peu sur le bord de la route, hein, j'ai l'impression avec ça.
Ah oui, ouais, c'est déjà rien à peu. Toute ma famille était là-bas et sauf moi.
Et est-ce que vous arrivez à en parler avec votre mère de ça ? Du fait que vous vous sentez
exclu ? Elle me dit ouais, pourquoi t'es pas monté, machin. Je suis pas monté parce que j'ai pas les moyens de monter. J'ai perdu 100 km pour monter. Je vais pas griller le train. Je suis à la Côte au Rep, j'ai 860 € par mois, là. On a un train pour. Comme ça, alors que j'ai des frangins qui travaillent et qui. Même pas un qui m'a aidé, même pas.
Il n'y en a pas un qui vous a tendu la main, quoi.
Il n'y en a même pas un qui m'a tendu la main, même pas. J'ai un frangin qui est du côté de Toulouse, une tante qui est du côté de Toulouse. S'il voulait, il me téléphonait. Moi, je prenais le train jusqu'à Toulouse et on montait, quoi. Même pas, rien. Regarde. Et là, après, ça va se battre pour les obsèques.
Non, pour l'héritage, je voulais dire.
Ouais.
Ouais.
Ouais, oui. Je sais pas, moi, quand parler quelqu'un, ma mère me dit, va à la mosquée. Tu vas faire la manche, les gens ils vont t'aider pour monter. je ne vais pas aller faire la manche pour monter. Ouais. Oh.
Bon, de toute façon, tout ça, Rachid, c'est terminé. Les obsèques sont finies maintenant.
Ouais, ouais, mais
ce qui est important, c'est que vous commenciez un travail de deuil.
Ouais. Ouais, ouais.
Sinon, vous allez tourner en boucle dans une souffrance qui va être très lourde.
Ouais. Ah, mais ça m'a marqué. Hein. Ça m'a,
ouais, bien sûr.
Ça m'a marqué. Hein.
Oh. Est-ce que si on a ce soir des auditeurs ou des auditrices qui ont vécu une situation un peu similaire et qui aimeraient, je sais pas, vous parler, entrer en contact avec vous, est-ce que vous seriez d'accord pour ça?
Ouais, ouais, y a pas de problème. Oui.
Parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui vous trouvent sympathique.
Ouais, y a pas de souci.
Donc si jamais on a... Ah,
vous savez, moi, dans ma vie, hein, je me suis marié deux fois, pas eu de chance non plus. Hein. Ah. Et moi... Même à l'heure d'aujourd'hui, j'arrive pas à croire que j'ai pas vu mon père. Quoi. Mmh.
Ça serait compliqué pour vous d'aller voir une assistante sociale, de demander une aide psychologique, d'avoir quelqu'un.
Ouais. Non, c'est trop compliqué. Quoi.
Vous êtes sûr?
Ouais.
Ouais, je comprends. Une situation, c'est pas forcément évident de trouver, d'avoir une psy pour être accompagné.
Moi, maintenant, c'est de voir si je peux monter au Maroc. Quoi, pour...
Vous aimeriez aller sur sa tombe?
Ouais. Ça, c'est la chose que je fais.
Mais en attendant, vraiment, ça serait vraiment bien si vous arriviez à faire un acte symbolique fort. Un arbre, quelque chose de vraiment... qui marque cet événement.
Ouais. Hein? Moi, je préférerais le faire au Maroc. Quoi.
Certes, bon, mais en attendant, ça serait bien de le faire là où vous êtes. Bien sûr, mais au Maroc, vous n'aurez pas besoin d'un acte symbolique, vous serez sur sa tombe. Mm-hmm. Il n'y aura pas besoin de faire quelque chose en plus, si vous voulez.
J'ai perdu ma grand-mère, j'ai perdu mon frère.
Ouais. Je vous sens seul, Rachid. C'est pour ça que je vous dis que si jamais ce soir, on a des gens qui sont touchés par votre histoire et qui veulent entrer en contact avec vous, je serais ravi de faire le lien.
Oui.
Non. Ce serait sympa que vous puissiez avoir un réseau comme ça.
Mmh.
Que cette libre antenne soit d'une nouvelle fois une grande famille. Qui quelquefois compense celle qu'on n'a pas ou qu'on n'a plus.
Bah, c'est sûr. Mmh. C'est sûr. Quoi.
Qu'est-ce que vous aimez dans la vie, Rachid? Qu'est-ce qui vous fait du bien?
Moi, ce qui me fait... Moi, c'est les voyages. Quoi. J'aime bien voyager. Quoi.
Pas facile quand on n'a pas de sous de voyager.
Bah voilà, c'est ça. Ouais. Sinon, moi, c'est le cinéma, la musique. Mais bon, en ce moment, c'est pas...
C'est pas le moral?
Non.
Ben, c'est normal.
Même quand j'appelle ma mère, ça va, non, ça va pas.
Et elle, comment elle va?
Oh bah elle, elle parle normalement. Hein.
Oui, mais ça ne veut pas dire qu'elle va bien, ça.
Ça n'a pas l'air de... Au début, oui, mais bon, non. Elle l'a vu mourir, alors, donc bon. Parce que moi, je suis en France depuis 1974.
Oui.
Et eux, ils ont toujours été ensemble. C'est arrivé qu'ils se disputaient, machin, nanani, nanana, mais ils ont toujours été ensemble. Quoi.
Bah, c'est pour ça que je vous demande comment elle va. Ça doit être difficile et douloureux pour elle aussi. Hein.
Elle fait avec. Quoi. Bon, il y a mes frangins qui sont encore avec elle. Elle ne reste pas toute seule. J'ai mes frères qui habitent encore dans la maison.
Ah, d'accord.
Oui, ils ne les laissent pas toutes seules. Quoi. Mmh.
Donc c'est vous qui vous sentez un peu sur le bord de la route, là?
C'est moi qui me sens même loin du bord de la route. Quoi. Parce que moi, je parle avec elle que par téléphone. J'ai juste contact par téléphone. Quoi.
À quel rythme vous l'appelez tous les combien, votre maman?
Bon, tous les deux jours.
Ah oui, il y a un lien quand même, c'est important.
Ouais, ouais. Oui, tous les deux jours. Ouais. Ça va.
Est-ce que dans votre région, il n'y a pas des groupes, des associations, des activités que vous pourriez faire?
Oh bah c'est montagneux chez moi. C'est...
Oui, la montagne n'empêche pas l'activité.
Oui, c'est sûr, oui. Mais...
Pour ne pas rester seul comme ça, il y a peut-être des choses que vous pourriez faire. Vous inscrire dans un... Je ne connais pas votre région, je ne sais pas ce que vous aimez. Vous parlez de musique, de cinéma, il y a des choses à faire aussi dans ce domaine-là.
J'habite du côté de Apt.
De quoi?
Apt.
Ah, Apt, d'accord.
Oui, 80 Apt.
De toute façon, quel que soit l'endroit, il y a toujours partout en France des activités, des groupes, des assos, des choses comme ça pour rencontrer des gens. Ça vous ferait peut-être du bien aussi, ça, de ne pas rester seul.
Ouais, non, je pense pas. Non, moi, c'est de voir mon père. C'est d'aller au Maroc et voir mon père.
Bah, je vous le souhaite, Rachid, mais là, c'est une question financière et je ne peux rien pour vous.
Ah oui, je comprends. Ouais.
Tout ce que je peux faire, c'est vous ouvrir ma porte et mon micro ce soir, ne pas vous laisser seul. Mais là, je n'ai pas de solution pour que vous puissiez aller au Maroc là tout de suite.
Hein. Alors, je comprends bien. Mais... Ça, c'est...
C'est votre objectif, en tout cas.
Ah, c'est mon objectif, oui. Avant toute chose.
Rachid, je vous souhaite du fond du cœur d'y arriver. Que ouais, quelqu'un puisse vous aider à ça, que vous y arriviez à trouver les moyens de partir là-bas. Mais faites quelque chose de symbolique en attendant quand même. Hein.
Ouais.
Prenez ce temps-là.
Ouais.
Rachid, je ne peux que vous embrasser très très fort.
Ok, bah moi aussi, bah c'est gentil de m'avoir appelé, quoi.
Et puis, bah, rappelez-moi de temps en temps si vous avez besoin de parler ou envie de donner de vos nouvelles.
D'accord, il n'y a pas de souci.
D'accord.
Ça marche.
Je vous embrasse, okay. Rachid.
Passez une bonne soirée. Hein. Merci à toute l'équipe. Hein.
Merci à vous. Au revoir.
Europe 1, la libre antenne, Sabine Marin.
Bonsoir Damien.
Oui, bonsoir Sabine.
Bienvenue.
Merci de votre accueil.
Je suis ravie de vous accueillir. Dites-moi un petit peu ce qui vous amène alors.
En préambule, si vous le permettez, je vais dire quelques mots à Rachid.
Oui.
Puisqu'on a le droit.
Bien sûr.
Je vais dire salam alaikum mon frère, faut pas sur la vie de ma mère. Faut pas t'enfermer dans un deuil pathologique, c'est-à-dire un deuil maladif. Faut plutôt améliorer ta vie. Moi, je suis parti de bien plus bas que toi. Et puis, j'ai quand même, à force de travail, de persévérance, de ténacité, de volonté et de motivation et de bonté, de beauté, j'ai réussi à remonter l'échelle. Alors, c'est le sujet de ma présence ce soir auprès de vous, Sabine, et de tous les auditeurs.
Alors, racontez-nous.
Alors, il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu une femme à la télévision qui se disait chamane. Elle a dit, on doit traverser la maladie, la folie, la mort, la peur, tout en restant vivant. Alors moi, j'ai fait partie donc pendant 43 années, j'ai côtoyé une sorte de mouvement à caractère sectaire, on peut le dire, où il y avait un chef suprême qui ne supportait pas la contestation, la critique.
Mais comme souvent dans ces mouvements-là.
Hein. Oui. Et comme je sentais que je pouvais me faire absorber par une sorte de schizophrénie, c'est-à-dire on peut être un homme qui se développe par une trame psychologique, se construire psychologiquement d'une manière logique, cohérente, normale, ou alors passer directement à la religion, au sectarisme mystico-galactique, comme on me l'a proposé.
Comment vous êtes arrivé vers eux ? Par quelqu'un ?
Oh ben c'est un pote qui m'a dit, écoute, au lieu de glander comme ça, là, à rien foutre, tiens, je vais te filer une adresse, tu vas aller voir, tu verras, il y a des paillettes partout, c'est brillant, c'est lumineux, il y a des petites lumières, il y a des bip-bip, et puis il y a des gens habillés en cosmonaute, et puis il y a un chef qui va t'apprendre un tas de trucs. Il dit, bon, bah, j'ai rien à perdre, hein, j'ai 27 ans, je suis à la zone, je vais aller voir ce que ça vaut. Et puis, on a fait quelques séances de relaxation, ce qu'on appelle sophrologie, quoi.
Oui.
Catharsis. Au début, ça m'a aidé, quoi. Puis, en réalité, ça n'avançait pas parce que le traitement qu'il me fallait, c'était plutôt un vrai dialogue sur les pathologies inconscientes qui animaient mon être. Et comment y remédier, bien prendre conscience de l'inconscient. C'était toute une trame comme ça qu'il fallait. Et tout ça, ça n'existait pas. On ne se parlait pas, ou simplement pour dire « faites gaffe, soyez prudent, soyez vigilant, vous faites pas avoir, vous défoncez pas ». Picolez pas. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais ça suffit pas. Alors, comme j'avais rien d'autre, je suis resté 43 ans à les côtoyer. Et puis, il fallait suivre le chef dans toutes ses fantaisies, ses folies. Il avait une quinzaine de filles autour de lui. Pour ses petites manies. Enfin, je veux pas cracher dans la soupe non plus, hein. Je veux pas trop les dénigrer ou quoi que ce soit. Je veux pas donner non plus de nom.
Ce qui est intéressant, c'est comment vous en êtes sorti. C'est toujours la question qu'on se pose, en fait. Pourquoi et comment en sort ? Parce que comment on y rentre, ça, on a bien compris, mais comment, pourquoi et comment on en sort ?
Alors, j'en suis sorti parce que d'abord, ils trouvaient que je m'intégrais pas très vite.
Bah, 43 ans, c'est pas assez long ?
Non. Que je participais pas assez à leurs activités, à leurs idées, à leurs trucs. Au bout d'un moment, j'ai dit au chef qu'il avait une justice à plusieurs vitesses, que ça n'allait pas, quoi, que je me retrouvais pas. J'étais toujours dans un état de vide intérieur. J'étais pas du tout construit. Je restais dans la même immaturité, si vous voulez. Mmh. Et alors, pour m'en sortir, il a fallu que je m'engueule avec eux, qu'ils trouvent ma présence de moins en moins souhaitable. Et puis, sur un accord commun, on s'est séparés. Mais je me suis retrouvé à la rue avec mes sacs. Et d'une manière totalement désespérée, vide de moi-même.
Et oui, parce qu'on n'est plus habitué à se prendre en charge, en fait, dans ces situations-là.
Oui, c'est ça. Mentalement, j'étais sous emprise. Ouais. Et subitement, j'avais plus aucune référence. Et il a fallu que j'ai atterri à l'armée, dans les foyers d'urgence dans un premier temps. Après, à l'armée du salut qui m'a accueilli, c'est très propre, c'est super clean, génial. Et puis après, je suis parti, j'ai trouvé une vieille baraque dans la nature. Et j'avais besoin de me retrouver un petit peu seul. Me sentir en sécurité parmi une nature silencieuse, paisible, où il y a un oxygène, sans avoir de pression de quiconque.
Quel âge vous aviez quand vous avez recommencé une nouvelle vie, en fait, libre ?
J'avais, je crois, quelque chose comme 60 ans. Oui, ça fait 10 ans que que je les ai quittés.
Et aujourd'hui, alors votre vie, elle ressemble à quoi ?
Aujourd'hui, ma vie, elle ressemble. J'ai pris une location assez confortable. Je chante, je fais de la musique dans la rue. Bon, j'ai une petite retraite de glandeur qui me permet de vivre. Je vais faire de la musique et de la chanson dans la rue parce que j'adore vraiment chanter et je le fais bien. C'est pour le plaisir de rencontrer des gens. Je demande surtout pas d'argent. Ça fausse un peu les rapports. Et puis, voilà, bon, je ne vais pas cracher dans la soupe parce que j'ai vécu des choses intéressantes avec eux.
Mais vous ne regrettez pas une seule seconde d'être parti?
Ah non, non, non. Non, je suis à l'école de la psychologie maintenant. Je fais 2 heures de psychologie par jour. Avec qui? Avec la Libre Antenne. C'est une véritable école. C'est, pour moi, c'est... Ah oui, oui, oui.
Ah, c'est le miroir de la vie. Hein. On est au cœur de l'humain tous les soirs.
Ah bah oui, la Libre Antenne, on entend des mots simples, mais qui ont du poids et qui ont une vraie magie. Et ça, c'est difficile à trouver. C'est pour ça qu'il y a autant de monde. Hier soir, j'ai entendu une femme qui parlait de ses malheurs, accouchement, violence physique, psychologique, oui. Avortement, etc. Mais je dis chapeau à cette femme, c'est incroyable ce que les hommes...
C'était un roman, son histoire.
Oui, ce que les hommes ont pu faire souffrir les femmes. Il y a des fois, j'ai presque honte d'être un homme. Je vous assure, j'ai renoncé à toute sexualité depuis un paquet d'années parce que je ne veux vraiment pas me mettre au même niveau que la plupart des hommes. Et bon, ben en ce moment, je continue la psychologie, j'ai toute une littérature, j'ai fréquenté pendant 4 ans la psychiatre, psychologue, parce que leur métier m'intéresse, leur connaissance, leur savoir, et puis ça m'a permis de bouffer un petit traitement pour être un peu plus calmos.
De vous reconstruire aussi.
Oui, et me rééquilibrer, et puis dormir un peu plus paisiblement, quoi. Même si ce n'est pas encore le top. Mais dans l'ensemble, ça va. Mais j'ai travaillé très dur, très très dur. Introspection intérieure, prise de conscience, observation. J'ai surtout beaucoup écouté. Et j'ai surtout beaucoup écouté la Libre Antenne, qui m'a appris énormément de choses. Et j'ai lu des livres extrêmement intéressants. Parce que le mental, lire, ça aide à structurer le mental. Le raisonnement et la résonance émotionnelle interne. Vous voyez ?
Oh oui.
Je parle bien, non ?
Vous parlez très bien.
On croirait que c'est moi qui suis Sabine.
Oui, n'exagérons rien non plus, mais bon.
Non, il ne faut pas inverser les rôles non plus.
Non, il y a une chose importante dont j'aimerais parler s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont empêtrés dans des histoires de sectes. Ou qui ont des proches, je vous rappelle le nom de cette association qui s'appelle l'ADFI, ADFI, Association de défense des familles et individus victimes de sectes. C'est important parce qu'on se sent souvent seul au monde quand on a quelqu'un qui est enrôlé dans une secte et qu'on ne sait pas comment faire pour l'aider. Il existe des associations, il existe des réseaux qui peuvent vous accompagner, vous aider, c'est vraiment important de le dire et de le rappeler. C'est pas facile d'en sortir tout seul ou de faire sortir quelqu'un.
C'est bien ce que vous dites. Il nous reste encore 5 minutes à discuter. Je voudrais rajouter que si des fois il y a des gens qui sont dans des sectes les plus diverses, parce qu'il y en a un bon petit paquet.
Il y en a un
maintenant.
Paquet, oui. Ouais.
Hein, je n'ai pas donné de nom, je n'ai pas envie de me retrouver au tribunal et d'être attaqué en diffamation. Mais qu'elles se reprennent en main et qu'elles se disent. Ben finalement, je suis bien quand je suis avec eux, mais quand je sors, je me remets à pleurer, à trembler, à avoir peur, à avoir les mêmes phobies. Il faut que je m'intéresse plutôt à la psychologie et que je me structure et que je donne plus de maturité à mon existence et que je sois plus maîtresse.
Et oui, parce qu'en fait, on perd les rênes complètement. C'est la manipulation qui vous fait croire qu'en dehors, vous n'êtes pas capable de vivre seul et de vous reprendre en main.
Oui, c'est ça, quoi. C'est la manipulation mentale.
Bien sûr.
Et puis, parfois économique ou matériel. On vous loge des fois. Hein. On vous aide aussi. Hein.
Ah bah bien sûr, bah forcément, il faut des arguments. Hein. Au départ.
Et ensuite qu'elles elles peuvent toujours jeter un petit coup d'œil du côté religieux, mais vaut mieux aller une heure à l'église par semaine que de passer des jours ou des heures entières dans une secte où on n'y comprend rien en réalité, quoi. On ne fait suivre que le mouvement. Et on dépend du regard des autres, on est jugé, évalué, pesé, et on souffre, on est frustré, on est malheureux, quoi.
Oui.
Ça, je voulais dire aussi que bon, j'ai vécu une expérience où l'esprit peut vivre sans corps, mais le corps ne peut pas vivre sans avoir d'esprit. C'est une expérience assez incroyable. J'ai aussi vécu une expérience de télépathie. Alors, à la mort de mes parents, parce que j'ai pris des notes quand même, avant de vous appeler, j'ai pris des notes. À la mort de mes parents, j'en parle au chef, comme quoi que ma mère est morte. Seule chose qu'il a su dire, c'est « Ah, t'as perdu ton enveloppe. » Rien d'autre, pas d'affect, pas d'émotion. Ah, ça m'a vraiment dégoûté.
C'est leur vrai visage là, qui apparaît.
Je sais pas, moi, qui me dit quelque chose, quelque chose d'un petit peu affectif, quoi, qui réconforte, qui rassure, rien. Alors, je me suis fait jeter comme un Kleenex, mais au moins j'ai réglé mes comptes, quoi. Et maintenant, bon, je peux dire que ça va plutôt bien. Je suis assez créatif, je bois pas, je ne fume pas. Et s'il y a des gens qui veulent mon téléphone, n'hésitez pas à leur donner sur ce sujet-là.
D'accord, Damien.
Sur cette question-là. Hein.
On va faire ça. On va en rester là parce que j'ai Laetitia qui attend et qui va pas très bien. Et j'aimerais vraiment la prendre avant que l'émission se termine.
Eh ben, c'est très bien.
Mais merci de ce témoignage positif. Et effectivement, si on a des gens qui ont besoin d'échanger avec vous sur ce sujet des sectes, on transmettra les messages, d'accord ?
Voilà. Et j'embrasse Laetitia et je lui souhaite une bonne soirée. À bientôt. Merci de m'avoir.
Et moi, c'est moi qui vous embrasse, Damien. Merci, au revoir.
Au revoir.
Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Bonsoir, Laetitia.
Oui, bonsoir.
Merci. Oula, vous m'entendez ?
Oui, je vous entends et vous m'entendez ?
Oui, merci d'avoir patienté, Laetitia. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous arrive ? Qu'est-ce qui se passe ?
C'est un petit peu compliqué, toujours pour moi. Ça fait longtemps, en fait, mais... Ça fait un moment que j'avais envie de vous parler. Ce soir, j'ai décidé.
Mais vous avez bien fait.
Je comprends pas bien pourquoi j'arrive pas vraiment à m'en sortir, en fait, depuis toutes ces années. C'est-à-dire que là, le monsieur d'avant, je sais pas exactement son prénom.
Damien.
Oui, il parlait de secte. Je me demande si, au final, ma famille n'est pas une secte pour moi, finalement. Mais voilà, ça, c'est une autre chose. Mais moi, j'arrive pas à trouver l'amour. J'ai 48 ans. Et j'ai des expériences qui ne marchent jamais. Des expériences récentes qui ne marchent pas. J'ai été avec des hommes avant qui ne marchent pas non plus. J'ai des problèmes avec l'alcool. Pendant un mois, j'ai pas bu. Pendant les fêtes de fin d'année, j'ai dit j'arrête tout, toute seule. Je me suis privée de voir tout le monde. J'ai vu personne. Je me suis restée toute seule chez moi en me disant je m'isole et je me prive de tout. Et depuis 3-4 jours, c'était compliqué, la solitude, alors je recraquais, quoi.
Pourquoi vous avez fait ce choix de vous isoler complètement ?
Parce que, en fait, à Noël, j'étais invitée par une amie, mais cette personne, en fait, elle boit. Et je me suis dit, si j'y vais... D'accord. Je vais être tentée, alors que moi, j'ai envie d'arrêter.
C'était pour ne pas boire, en fait, que vous avez fait ça.
Voilà, c'est ça.
C'est un peu radical, hein ?
Peut-être. Et aussi parce que c'est vrai que d'un autre côté, j'ai du mal à sortir de chez moi. J'ai du mal à aller chez les autres, en fait.
Mmh. Est-ce que, je sais pas, enfin... vous, est-ce que vous vivez seule?
Oui.
Est-ce que vous avez un travail?
Non.
Et donc vous n'avez pas d'obligation de sortir?
Non, voilà.
Et vous tournez un peu en boucle à l'intérieur, de vous-même même?
Ben, je réfléchis beaucoup, bien sûr.
Et oui, bien sûr.
Je réfléchis beaucoup, j'ai fait des études de psychologie moi-même, mais voilà, je comprends pas bien pourquoi j'arrive pas à m'en sortir, tout simplement.
Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, Laetitia, avant, quand vous étiez petite?
J'étais pas heureuse.
C'était comment, l'enfance?
Triste, j'étais très triste.
Pourquoi?
Je sais pas. Mes sœurs étaient bien, j'ai deux sœurs. Mes sœurs allaient bien, moi j'allais pas bien.
Aussi loin que vous en souvenez, ça allait pas?
Non, ça allait pas du tout. J'étais toujours triste.
Et vos parents ont fait quelque chose pour ça? Ils vous ont aidé?
Jamais. Je me sentais abandonnée, je me sentais triste tout simplement. En première année de primaire, je suis allée dans le cours de ma petite sœur, parce que je supportais pas d'être seule dans mon cours. Hein. Et au lycée, même au lycée, j'allais très souvent vers ma grande sœur, parce que je supportais pas d'être seule. Donc j'ai toujours eu besoin de mes sœurs jusqu'au lycée, quoi.
Et il n'y a pas eu d'événements particuliers dans votre enfance?
Je me souviens de rien, en tout cas.
Vous ne vous souvenez pas de quelque chose?
Comment?
Vous ne vous souvenez pas d'un événement, d'un traumatisme particulier?
Non, je me souviens de rien.
Et après, alors, un jour, vous avez quitté la maison, vous avez quitté le nid?
Oui, bien sûr, j'ai été pensionnaire à 14 ans et demi au lycée. J'ai été pensionnaire en seconde jusqu'en terminale. À 17 ans, j'ai redoublé ma terminale, donc j'ai eu mon bac à 18 ans quand même. Après, j'ai fait la fac jusqu'à 23 ans. J'ai eu ma maîtrise de psycho. Après, j'ai fait une bouffée délirante en maîtrise de psycho. J'avais pourtant une psychanalyse au BAPU à Paris. Elle m'a laissé délirer, en fait. Elle m'a pas dit d'aller voir un psychiatre à ce moment-là, donc j'ai déliré. Après ça, mes parents m'ont recueilli chez eux, malheureusement, et ça a été pas terrible parce que j'ai rien fait pendant 2 ans chez eux. J'étais au lit du matin au soir et je me levais que pour manger et pour dormir. Enfin, je faisais que dormir.
Mais vous qui avez fait des études de psycho, pourquoi vous n'avez pas cherché à voir quelqu'un à ce moment-là?
Quand?
Pendant ces 2 ans où ça allait pas?
Mais bien sûr, j'avais un psychiatre. Mais
d'accord.
J'ai eu un psychiatre, mais il y en a un qui m'a draguée. Malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé, quoi. Donc, mes parents n'ont rien fait quand je leur ai dit que ce monsieur, il appelait même chez mes parents. Je leur ai dit, c'est pas normal qu'il m'appelle. Moi, j'étais très dépressive. Mes parents disaient rien, comme si il se passait rien. Donc, je me sentais complètement livrée à moi-même, quoi. Mmh. Et puis, après, donc, qu'est-ce que je sais plus ce que j'ai fait. Je crois que je me suis battue toute seule vraiment longtemps. J'ai repris un troisième cycle à Paris, dans une école de commerce, où j'ai fait un troisième cycle en ressources humaines. Et je l'ai eu, et après ça, j'ai un peu travaillé jusqu'à 31 ans. Et après, c'était tellement difficile que j'ai dû arrêter par la pression du travail et même problème de dépression. Et la dépression, en fait, ça n'a jamais vraiment quitté ma vie, quoi.
C'est ça, j'ai l'impression que c'est une toile de fond depuis que vous êtes toute petite, cette dépression.
C'est ça.
C'est comme un voile gris que vous avez devant les yeux tout le temps.
C'est ça. Et ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'elle n'a pas été soignée, cette dépression.
Oui, mais il faut faire quoi alors? Il est trop tard peut-être.
Il n'est jamais trop tard, Laetitia. Jamais. Chaque jour est un nouveau départ.
Mais comment je peux soigner cette dépression?
En commençant par voir un psy et prendre des antidépresseurs.
Déjà, j'en prends depuis longtemps.
Mais peut-être, est-ce que c'est les bons? Est-ce que c'est ce qui vous convient? Est-ce que c'est le bon dosage?
J'ai tellement changé, là, j'en ai depuis 2-3 ans des nouveaux, j'ai augmenté, j'ai une psychanalyste depuis 4 ans, mais des fois c'est compliqué pour moi d'aller la voir, je la vois au moins une fois par semaine, mais des fois j'ai du mal à y aller.
Vous la voyez au moins une fois par semaine ou vous avez du mal à y aller?
J'y vais au moins une fois par semaine, ouais.
Bon, ça c'est déjà important.
Oui, mais ça va mieux depuis que je la vois, bien sûr, mais il y a un problème aussi que j'arrive pas à parler avec elle, c'est de mon viol quand j'avais... Je lui en ai parlé, bien sûr, au début, mais après, je n'en ai jamais reparlé. C'est quand j'avais 23 ans avant ma bouffée délirante.
Ah ben oui, c'est important, ça.
Mais j'arrive pas à en parler.
Comment ça se fait? Parce que s'il y a une personne au monde à qui on peut parler de ça, c'est bien son thérapeute.
Ouais, mais je sais pas, c'est comme si je me mettais à nu et que je perdais tous mes moyens, quoi.
Mais c'est important, Marie, Laetitia, d'en parler. Parce que là, il y a un traumatisme, là, quelque part.
Hein. Ouais, je crois.
Déjà, vous dites que depuis petite, il y a une toile de fond un peu triste. Et en plus, vous subissez une agression.
Ouais.
Si c'est que ça vous renferme encore plus sur vous-même, à l'intérieur de vous-même.
Ouais.
Et le seul moyen d'en sortir... Oui.
Quand je l'ai dit à mes parents, 2 ans après, parce que je l'ai gardé pour moi pendant 2 ans, mes parents m'ont dit que c'était de ma faute.
Ouais, ça c'est terrible. On en parlait hier ou avant-hier avec quelqu'un qui avait le même problème, c'est quand les parents non seulement ne vous soutiennent pas, mais en plus vous culpabilisent encore plus, c'est double peine, quoi.
Parce que ça s'est passé chez moi et ma mère m'a dit « t'avais qu'à pas l'emmener chez toi ».
Ouais, mais si c'était aussi simple. Hein.
Ouais, mais moi j'ai cru mes parents, je crois mes parents tout le temps.
Enfin pas aujourd'hui, vous êtes une adulte aujourd'hui Laetitia.
Oui, bien sûr, mais je sais pas, une petite fille à l'intérieur de moi quand même.
Mais c'est là-dessus qu'il faudrait travailler avec votre thérapeute. C'est, vous savez qu'il n'y a qu'avec les mots qu'on peut soigner toutes ces choses-là. Si ça sort pas, si vous n'en parlez pas avec elle, vous allez tourner en boucle à l'intérieur.
Il faut soigner quoi alors?
Ce problème de viol, cette agression-là, il faut en parler.
Mm.
Vous pouvez pas garder ça à l'intérieur.
C'est bizarre, j'arrive des fois à en parler avec des amis, mais pas avec ma psy, quoi, c'est bizarre.
Vous avez confiance en elle?
Oui, quand même, ouais.
Alors, c'est son métier, elle a les compétences pour vous accompagner sur un terrain comme ça?
Je crois qu'elle attend que ça en même temps. Je lui en parle.
Tout ça, ça reste coincé à l'intérieur. Si vous n'ouvrez pas la porte pour que ça sorte, vous allez avoir du mal à aller mieux.
Ah bon?
Oui.
Mais pourquoi alors? Je suis triste depuis mon enfance.
Là, il y a autre chose. Ça, je ne peux pas vous répondre à ça en 5 minutes par téléphone, mais vous savez, c'est souvent un millefeuille dans la vie. C'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Il faut bien commencer par enlever des couches.
Mmh.
Et déjà, travailler sur cette agression et vous libérer de ça, par la parole, ça serait déjà beaucoup. Et à propos de... Oui.
Pardon. Vous savez, je me suis fait suivre plein de fois aussi... Je me suis fait suivre, ça m'a traumatisé jusqu'à ma porte, à mon immeuble à Paris. Et je me suis dit, ça y est, je suis foutue. Là, je suis plus à Paris, mais je suis en province. Mais je me dis, si je sors, je vais encore me faire suivre, je vais encore me faire agresser, ce qui fait que je m'enferme et je sors plus.
Mais voilà, c'est pour ça que je vous parlais d'un traumatisme tout à l'heure. Et le traumatisme, ouais. Déjà que vous avez tendance à être un peu en boule sur vous-même quand ça ne va pas. Et un traumatisme vous fait vous verrouiller encore plus tout ça.
Mais pourquoi je me suis fait suivre plein de fois?
Je ne sais pas si vous êtes réellement fait suivre ou si vous avez eu peur parce que vous avez ce traumatisme. Ou parce que quelquefois, quand on a été agressé, on a un comportement, on dégage quelque chose.
C'est ça.
Et qui fait que, voilà, il y a une peur, il y a quelque chose qui peut attirer certaines catégories de gens malveillants.
C'est ça, en fait, qui m'est arrivé. C'est pour ça que je ne sors plus.
C'est d'autant plus urgent d'en parler à votre psy. En tout cas, il y a quelque chose que je vais vous dire, Laetitia, et j'espère que ça va vous redonner le sourire, c'est qu'il y a beaucoup de messages qui arrivent pour vous ce soir.
Ah bon ?
Il y a Julien qui laisse son numéro de téléphone et qui dit « Si elle a besoin de parler, je peux aussi lui redonner le sourire. »
Ah bon ?
Il y a Katonoma qui dit « Bonsoir Laetitia, courage. J'ai beaucoup de peine pour vous et je suis prête à vous écouter. » qui laisse son téléphone aussi.
Ouais.
Il y a... Alors attendez. Ah, c'est Julien, je crois que c'est le même Julien qui dit « Qui est routier ?» J'aimerais échanger avec Laetitia, si elle a besoin de parler, on peut lui laisser mon numéro de téléphone. Merci de lui transmettre.
C'est gentil, merci, ouais, beaucoup, ouais, merci beaucoup. Je me sens très très seule dans la vie et ça fait très très longtemps.
Eh oui, j'entends bien.
Et d'après vous, c'est pour ça que j'arrive pas à garder un homme?
Probablement, vous savez, quand on est mal avec soi-même, on a du mal à être bien avec les autres. Pour l'instant, vous êtes en boule sur vous-même, c'est difficile de s'ouvrir à un autre. Homme ou femme, et en plus homme, dans votre situation, quand il y a une agression comme ça, c'est d'autant plus difficile de s'ouvrir avec confiance à un homme.
Ouais. J'ai l'impression que je suis toujours en train de me faire avoir.
Mais oui, parce que vous êtes fragile pour l'instant.
Ouais, mais je le serai peut-être toute ma vie.
Non, je trouve pas forcément. Vous savez, quand on est bouleversé, on a toujours l'impression que ça s'arrêtera jamais. Qu'on n'a pas de valeur, qu'on n'a pas d'intérêt, que ça c'est interminable. Mais il y a une sortie, il y a toujours une sortie.
Mais j'ai été malheureuse les trois quarts de ma vie quand même.
Oui, j'entends bien, mais ça veut dire que vous n'êtes pas encore sur le bon chemin. Mais ça ne veut pas dire que le chemin n'existe pas.
Ah bon? Même à mon âge?
Écoute, vous avez 48 ans, Laetitia. Vous êtes jeune.
C'est déjà pas mal.
Mais une fois de plus, quand on est bouleversé comme ça, quand ça ne va pas, on a toujours des jugements catégoriques.
Ouais.
Mais avec le temps, et quand on se soigne, on apprend à mettre des nuances et des couleurs, à remettre des couleurs. Pour l'instant, vous avez ce voile gris devant les yeux. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que derrière le voile, il y a des couleurs.
Ouais, j'espère, mais vous croyez que, par exemple, moi, des fois, je me suis posée depuis le début de mes problèmes de délire et tout ça, parce que j'ai fait un délire sur un réseau de proxénétisme, en fait. Comme quoi, j'étais prise dans un réseau de proxénétisme par mon père et ma psychanalyste de l'époque. Je me suis posé des questions sur mon père petite, mais j'ai aucun souvenir.
Ça aussi, ça se travaille en thérapie.
Ah bon, j'ai aucun souvenir en tout cas. Mais mon père a décédé il y a 4 ans et il n'y a que 3 ans et demi que je fais une thérapie. Avant, je ne pouvais pas.
Oui.
Mon père était trop présent avec moi. Il ne pouvait pas me laisser tranquille. Il y a une psychiatre qui disait que mon père était amoureux de moi.
Qu'est-ce qui lui a fait dire ça?
Parce qu'elle nous a vus ensemble et... Elle a dit, votre père, il est amoureux de vous, je sais pas quoi. Je sais pas pourquoi elle a dit ça en même temps, mais... moi, j'étais un petit peu bouleversée. Et elle a même dit un truc qui m'a horriblement traumatisée, c'est qu'elle a dit que ma mère avait dû coucher avec un autre. Et moi, ma mère me confirme que jamais elle a été voir ailleurs, quoi. Et je me demande pourquoi cette psychiatre a dit ça.
Oui, c'est surprenant. Je peux pas intervenir là-dessus. Je ne sais pas dans quel contexte les choses ont été dites, donc j'en sais rien.
Ouais.
Mais ce que je lis à travers les lignes, là, c'est que quand je vous ai demandé s'il y avait eu des traumatismes enfant, vous me dites non. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a eu. Hein.
Vous croyez?
Il y a des choses qui sont sous-jacentes là, dans ce que vous dites.
Moi, je pense, mais j'ai pas de souvenirs. Comment voulez-vous que je fasse?
En continuant cette thérapie.
Vous savez que j'ai toujours eu peur de mon père. Hein.
Non, mais je l'apprends. Mais ça m'étonne pas. Je pense qu'il y a des choses qui sont bien plus grave et plus profonde que ce que vous me dites là, qui explique ce terrain dépressif depuis si longtemps.
Et vous croyez que ma mère, elle le sait, mais qu'elle veut pas le dire?
Pas forcément.
Qu'elle veut pas l'avouer?
J'en sais rien, je peux pas vous dire ça sans connaître votre histoire et sans connaître votre maman, mais qu'est-ce que vous soupçonnez, vous?
Moi, j'ai toujours soupçonné qu'il y avait un truc avec mon père, mais j'ai pas de souvenir, j'ai aucune preuve.
Oui.
Aucun souvenir et aucune preuve.
Il y a Jackie qui envoie un message pour vous en disant « Est-ce que vous avez été violée, petite, rejetée par votre famille ? Quelle est la meilleure solution pour débloquer ce traumatisme ?» Il pose la question, sophrologie, hypnose ou autre chose.
Bah, l'hypnose, j'y ai pensé, bien sûr, mais faut tomber sur quelqu'un de bien, quoi. Enfin...
Bah, c'est comme dans tout, vous savez. N'importe quel psychiatre a une responsabilité très importante aussi.
Bah, je suis tombée sur des très mauvais psychiatres, vous savez.
Bah, je me pose des questions dans ce que vous me dites, mais bon, après c'est toujours compliqué d'avoir une seule version. Mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'il s'est forcément passé quelque chose qui vous a abîmé petite, et vous avez grandi avec cette blessure-là. Mais ce qui est important de comprendre aussi, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque jour est vraiment un nouveau départ.
C'est vrai.
Bien sûr. Et des fois, les choses changent beaucoup plus vite qu'on ne peut l'imaginer, quelquefois.
Ouais, mais j'aimerais qu'un homme, un jour, je sais pas si on peut dire, par exemple, un jour je rencontre un homme et il peut me faire découvrir une vie autrement.
Non, Laetitia, la solution ne vient pas des autres, de l'autre, elle vient de vous.
Ah non.
On peut pas aller chercher la solution des problèmes chez l'autre. C'est quand vous irez bien avec vous-même que vous rencontrerez un homme qui va bien et qui vous fera du bien, pas le contraire.
Ah ouais. Donc il faut que j'arrive à savoir pourquoi je vais pas bien.
Ben, ça serait bien de creuser un peu, oui. Continuer à travailler cette thérapie.
Ben, ça fait quand même 3 ans et demi que j'y suis. Hein.
Alors faites de l'hypnose en parallèle.
Ouais.
Allez voir un hypnothérapeute qui va vous aider aussi à travailler sur la petite fille intérieure. Non. Et vous verrez que quand vous irez bien, comme par hasard, vous rencontrerez des gens qui vous font du bien. Et que ce voile gris petit à petit va se déchirer pour laisser passer les couleurs à nouveau.
Ouais. Et vous pensez que ça se trouve, il y a des gens de ma famille qui connaissent la vérité, mais qui ne veulent rien dire. C'est possible?
Bien sûr que c'est possible. Souvent, dans les situations compliquées, il y a des gens qui savent.
Ouais, mais alors ça les arrange.
Alors, je ne sais pas si ça les arrange. Après, il y a tellement de choses qui entrent en ligne de compte.
N'empêche que moi, ça m'empêche de travailler... Ça m'empêche de m'épanouir, ça m'empêche de sortir, ça m'empêche de tout faire, quoi.
Oui, ça vous pourrit la vie, cette histoire.
Bah, complètement. Mmh. Et ça fait depuis l'âge de 23 ans, quand même. Hein. Même depuis toute ma vie. Hein.
Oui. C'est pour ça que je vous dis, Laetitia...
Comme si j'avais pas le droit de vivre, en fait.
Eh bien, donnez-vous ce droit de vivre, vous-même. Reprenez ce droit, prenez votre place. Continuez ce travail thérapeutique.
Ouais, mais moi, je suis pas indépendante. Enfin, j'ai une allocation, mais ça me permet pas de vivre décemment comme je le voudrais, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je touche la hache, ça va pas m'emmener loin. Hein.
Oui, mais pour l'instant, c'est pas ça la question. La question, c'est que vous arrivez à aller mieux.
Ouais.
Après, en allant mieux, vous avez fait des études, vous avez des diplômes. Vous pourrez retrouver un travail qui vous permettra de relever la tête.
À mon âge ?
Oui, à votre âge, Laetitia. Tout est possible.
Ah bon ?
Tout est possible.
Vous savez, je suis à plus de la moitié de ma vie quand même. J'ai l'impression d'avoir gâché ma vie. Hein.
Et ça veut dire qu'il en reste encore une bonne moitié à vivre.
Ouais.
Laetitia, je suis désolée, notre émission se termine. Ça passe tellement vite.
Ouais,
je voudrais vous insuffler toute l'énergie que j'ai en moi, toute la lumière pour vous aider à trouver le bon chemin, d'accord ? Laetitia ? Ah, on l'a perdu en route. Bon, bah, je vous embrasse, Laetitia. En tout cas, oui, notre émission se termine déjà. Merci à tous ceux qui ont participé par téléphone et par SMS. Je vous retrouve demain soir à partir de 23h pour de nouvelles confidences. D'ici là, je vous quitte avec ma petite phrase du soir. Élève tes mots, pas ta voix. C'est la pluie qui fait grandir les fleurs, pas le tonnerre. Je vous souhaite donc une très bonne nuit et je vous retrouve demain soir sur Europe 1 pour la Libre Antenne à partir de 23h. À demain.